Vous écoutez France Culture.
Benoît, c'est quoi cette histoire? Pourquoi, qu'est-ce qu'on fait aux toilettes?
Bah, parce que c'est, on va parler des années 90 aujourd'hui. Attendez.
Vous faites quoi, là?
Je regarde s'il n'y a personne. Justement, dans les toilettes. Vous voyez pas? Non, vous voyez pas les années 90?
Ah, les McBeal, tout ça. Ouais, d'accord, ouais. Super.
Voilà. Donc, bon. On va parler de David Ikele. On va pas parler que de lui, mais on va quand même beaucoup en parler. Donc, je trouvais que c'était le lieu idéal pour en parler.
Je vais vous laisser quand même. Parce que là, bon. Hein?
Benoît Lagan,
Éric Vera,
Série Télé,
L'Amérique en 24 épisodes.
Ce soir, épisode 16,
les années 90, l'âge adulte.
Invitation à l'amour, avec Morton Adley dans le rôle de Chet, Selena Swift dans le rôle d'Emerald et Jad, Evan Saint-Vincent, Jerry Lancaster et Jason Dembo Montana.
Mes chéris, Jad et Emerald. De gros problèmes financiers m'obligent à en finir avec la vie. Et dès ce soir, j'espère que vous aurez la force de continuer sans moi, votre père qui vous aime.
Oncle Leland.
Papa, c'est Jad.
Oncle Leland.
Je t'en prie, je sais que tu es là.
Madeleine.
Jad, quelle surprise.
Maddie. C'est bien toi.
Oncle Leland, c'est vraiment horrible.
Dans notre épisode précédent, nous nous sommes arrêtés sur la révolution HBO, la célèbre chaîne du câble, qui a vraiment pris son essor en termes de programmation de séries télé au début des années 90. Bien avant, dans des précédentes émissions, nous avons également parlé des années 80 comme des années laboratoires. Alors après la grande époque des essais pour les grandes chaînes, les networks, il est temps de transformer l'essai des années 80 et de développer des séries pouvant rivaliser avec celles du câble. Ces deux raisons expliquent pourquoi la décennie des années 90 est sans doute l'une des plus intéressantes à ce jour, et il ne suffira pas d'un seul épisode pour faire le tour des grandes productions de cet âge adulte de la série télé américaine. Alors pour en parler avec nous, Séverine Barthes, rappelez-vous, elle est professeure de français, on l'avait entendu dans notre premier épisode, elle travaille dans le cadre d'une thèse consacrée à la rhétorique des séries télévisées sur un corpus impressionnant d'œuvres. Alors elle étudie 15 années de production sérielle, elle délimite ainsi sa période de Twin Peaks en 1990, la série de David Lynch, à Desperate Housewives, la série phénomène de 2005, signée Mark Cherry.
Ces deux séries sont des réécritures du soap. Mon travail ne concerne pas les soaps en tant que tels, mais le soap est un modèle majeur pour la télévision américaine, pour la construction des séries, y compris des séries de soirée. Dans Twin Peaks, on avait un jeu sur le code du soap. Alors, parfois de façon très apparente, avec le soap intégré dans la série Invitation à l'amour que regardent les personnages lors de la première saison, avec plein de clins d'œil. La série commence par le meurtre au sein d'une communauté, comme dans Santa Barbara. On a le fameux qui a tiré sur Cooper, qui renvoie au qui a tiré sur JR. Tous ces clins d'œil qui sont peut-être moins familiers aux spectateurs français parce qu'on est beaucoup moins abreuvé de soap, même si on les voit, mais la manière de diffuser aussi est différente en France, donc on les connaît peut-être moins quand même qu'aux États-Unis. Il y a tous ces clins d'œil, mais aussi des choses plus profondes dans la structuration même des épisodes qui renvoient au code du soap-opéra. Et Desperate Housewives, c'est aussi une manière de faire du soap-opéra. On est aussi dans une sorte de quotidienneté, avec les problèmes qui surgissent au sein d'une communauté, du voisinage, les histoires de famille, d'un point de vue thématique, donc aussi d'un point de vue construction de cette structure en module qui est assez caractéristique du soap qu'on retrouve dans Desperate Housewives. Et mon hypothèse quelque part de chercheur, c'est de dire David Lynch et Mark Frost, en jouant avec les codes du soap, ont réussi à revivifier quelque chose qui a lancé un renouveau des séries avec ensuite X-Files, avec Urgence, avec les séries policières. Il y a eu quelque chose de cet ordre-là. Et on arrive à une sorte de fin de cycle. Et Desperate Housewives essaye autre chose, réécrit autrement, et ça enclenche une nouvelle période. Alors bien évidemment, c'est une hypothèse de chercheur qui ne pourra être vérifiée en plus que d'ici 10-15 ans, je pense. Non, pas 250 ans, mais 10-15. Donc on est dans quelque chose qui se construit.
Alors Benoît, on vient de dire que la décennie 90 c'était une série formidable pour les séries télévisées américaines. Alors bon, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais c'est quand même le moment d'éclosion de séries comme Urgence, comme Friends, comme NYPD Blue, comme Oz, comme Les Sopranos, hein, j'en passe, et des meilleurs. Donc on voit donc une fiction américaine à maturité, vous l'avez expliqué. C'est aussi une décennie où on voit très visiblement des auteurs imposer leur marque de fabrique. Et donc à ce propos, l'auteur qui incarne peut-être le plus cette époque, c'est un monsieur qui s'appelle David E. Kelley. You stink. Alors on peut peut-être faire un portrait de David E. Kelley. C'est un avocat hein, qui abandonne très vite ses activités pour travailler à la télévision. Alors c'est un phénomène qui peut paraître comme ça un peu exceptionnel vu de France, mais finalement c'est quelque chose qui est complètement dans les mœurs du système hollywoodien, c'est-à-dire accueillir des professionnels pour qu'ils apportent leur science hein, dans l'univers décrit dans la série dans laquelle ils vont travailler. David Kelley, il est considéré comme un petit génie de la télévision des années 90 parce que coup sur coup, il va créer, on va dire, à peu près une demi-douzaine de séries qui vont toutes marcher, hein, donc qui vont le propulser dans ce qu'on appelle la A-list, c'est-à-dire le tout petit groupe de grands auteurs qui vont signer des deals mirifiques. Alors le studio Fox justement l'attire chez lui à cette époque-là et lui propose carrément de monter son propre mini studio hein. Donc on va voir toutes ces séries, vous savez, avec le générique de fin avec la petite mamie sur son rocking chair qui crie après son chien "You stick up", voilà. Donc c'est des fictions qui sont labellisées David Kelley, il a son studio hein, donc c'est le deal le plus important dans le Hollywood de la télé depuis Steven Bochco hein, quand à la fin des années 80 il signe avec ABC pour créer 10 séries de suite et on n'avait jamais encore vu ça et donc là David E. Kelley il le surpasse hein, et alors on peut dire quand même qu'à cette époque là il a plusieurs séries à l'antenne et que c'est très dur pour lui en fait parce que vu que c'est quelqu'un de très interventionniste hein, qui écrit quasiment tous les scripts de Ally McBeal et de The Practice, bon, en tout cas il est supervisé on va dire très très durement, donc bon, il y a bien un moment où il va plus arriver à gérer toutes les séries qu'il a à l'antenne. Donc, si on enlève La Loi de Los Angeles, qui est sa première grande série avec Steven Bochco, si on enlève Docteur Doobie, qui elles sont deux séries des années 80, donc on va voir dans les années 90 Ally McBeal, The Practice, Boston Public, Boston Legal. Hein, Benoît ?
Oui, et vous en oubliez une surtout.
Des séries qui vous parlent ?
Oui, des séries qui me parlent, mais vous en oubliez surtout une.
Oui, je vais venir. Ah. Je vais venir, c'est Picket Fences, mais je sais que vous allez m'en parler. Non, simplement, après ça, c'est vrai que David E. Kelley a connu, on va dire, un tout petit vide, bon, avec quand même quelques séries à l'antenne, donc c'est pas non plus donné à tout le monde. Et David E. Kelley, il va même se tourner vers la Real TV au début des années 2000, en proposant un concept pas très loin d'Ally McBeal, mais avec de vrais avocats dans un cabinet un petit peu loufoque. Ça va pas marcher. Son actualité à lui, c'est le remake de Life on Mars, qui va commencer à la télévision américaine dans quelques mois, et c'est lui qui en est le producteur.
Ce n'est rien, tout va bien. Le spectacle reprendra après une brève interruption. Veuillez
aller voir ce qu'il y a. Je reviens tout de suite.
S'il vous plaît. Rideau, jouez quelque chose. Tout va très bien, je vous assure.
Qu'est-ce qu'il y a? Laissez-moi passer. Allez, écartez-vous. Bill.
Il s'est effondré tout à coup.
Son cœur a lâché.
Appelez ma femme.
Je suis là.
Il faut lui retirer ce costume.
Yes.
Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé?
Oh, donnez-moi une scie.
Oh non.
En voilà une.
On n'a même pas fini l'acte 1, il a déjà arrêté de respirer.
Découpez le costume, vite, il faut lui retirer ça.
Attention!
Laissez-leur de la place. Allez, reculez. Reculez, s'il vous plaît, reculez.
Mais il est tout bleu, normalement, il devrait être lui.
Julia, tais-toi et va-t'en. Va-t'en immédiatement.
Ben moi, je m'inquiète pour lui, c'est tout.
Dites, c'est pas grave, docteur.
Envoyez tout le monde.
Mais quoi? C'est impossible, on a un spectacle, il faut faire... Il faut...
Le spectacle est fini, Joe. Phil Banks est mort.
Alors revenons quand même, Eric, sur nos années 90, avec cette première grande série de Kelley, parce qu'en fait, Kelley, il en écrit plusieurs, mais il n'est pas tout seul. La première série qu'il crée comme un grand, c'est bien Picket Fences.
Mmh. La ville du grand secret, la ville du grand shérif, oui, la ville du shérif du grand secret.
Là, vous mélangez, vous embrouillez l'auditeur, comme l'a fait TF1, mais je vais vous éclairer un petit peu tout ça. Ce qui est intéressant dans Picket Fences, c'est que c'est une série dans laquelle on retrouve tout le sel des productions de Kelley. C'est une série qui arrive quelques années après Twin Peaks et Bienvenue en Alaska, deux séries, l'une qui n'a pas marché, l'autre qui a bien marché, mais qui ont marqué le téléspectateur américain. Et là, avec Picket Fences, Kelley reprend un petit peu au départ l'idée d'une série qui se situe dans l'Amérique profonde.
Et puis cette espèce d'Amérique en réduction avec le juge, le policier, enfin, je veux dire, tous les personnages majeurs de la vie. De la société américaine.
Alors à la différence de Twin Peaks par exemple, c'est qu'avec Picket Fences, David E. Kelley nous fait une série assez réaliste, ou du moins dans la veine réaliste, parce qu'on est dans une petite ville américaine qui pourrait exister. Elle a un nom, elle s'appelle Rome, elle est dans le Wisconsin. Rome, dans le Wisconsin, ça existe, hein, il y a vraiment une ville qui a pour nom Rome. Et le titre français, bien évidemment, vous le faisiez référence tout à l'heure, c'est Hyde Secret City, la ville du grand secret. Alors, c'est du n'importe quoi, parce qu'il n'y a aucun grand secret dans cette série.
On était encore dans la queue...
De X-Files, aux frontières du réel.
Et de
donc,
Twin Peaks.
Voilà,
Peaks,
et de Twin Peaks. Donc, TF1 a vendu une série avec de grands mystères. Ce n'est pas du tout le cas. C'est une série, quand je disais réaliste, qui prend pour contexte, hein, une ville avec... Vous le disiez, son procureur, son avocat, son médecin, son shérif. Et les enquêtes policières ne sont qu'un prétexte à poser des questions éthiques et à poser des questions, en fait, aux Américains, quoi, sur leur propre société. Rome étant un condensé de l'Amérique.
Il faut dire aussi que tout le monde se retrouve quand même assez régulièrement au tribunal, hein, pour justement débattre de toutes ces questions éthiques.
Et Rome... Le titre n'est pas anodin, il y a même un épisode où ils mettent en scène l'avenue de Jean-Paul II dans la série.
Sont intégrés à mon corpus des séries comme The Practice, comme Ally McBeal,
Séverine Barthe,
comme Picket Fences, Boston Legal, enfin, on a Boston Legal un peu à la frange, mais on a ces séries-là. Il a une place notamment aussi dans ce travail qu'il a pu avoir sur ses personnages, qui me semble aussi une caractéristique de l'époque, pas que de Kelley, mais de l'époque, c'est-à-dire une sorte de club d'acteurs qu'on mobilise d'une série sur l'autre, voire de personnages. C'est-à-dire qu'on a non seulement la présence physique de l'acteur, mais aussi sa propre histoire fictive de la télévision, qui l'accompagne et qui vient avec lui dans une nouvelle série. Il a apporté aussi... Ally McBeal était innovante sur plein d'aspects. Et c'était pas évident, à mon avis, avant lui, de faire souffler autant de folie sur une série judiciaire très codifiée, généralement très grave. Enfin, on rit assez rarement d'un procès ou d'une enquête policière. Il y avait vraiment ce côté décalé, et qui reste étonnamment moderne. J'en ai encore regardé hier d'Ally McBeal, et ça fonctionne toujours très, très, très bien. C'est pas devenu daté, il y a toujours ce... une sorte de fraîcheur. Moi, il me semble aussi que c'est là l'hybridation entre diverses traditions cinématographiques, entre la réalité de la fiction et la réalité du réel, si on veut, entre les références archiculturelles, littéraires, pointues, qui peuvent parfois être vraiment très très pointues, et les références de ce qu'on pourrait appeler la culture populaire. Tous ces phénomènes de jeu, d'hybridation, de renvoi, de détournement, me semblent vraiment caractéristiques de la décennie 90.
When I told Mr. Line the story, he got fired. The guy grabbed my buttocks.
What? You're fired. I'll sue.
And he did. He claimed OCD, obsessive compulsive disorder. The sickness being to squeeze butts. To touch
them. He filed a claim under the Federal Disabilities Act.
What are you saying?
Well, because of attorney's fees, punitive and possible treble damages that go with the suit. I'm saying the partners would rather be sued by you.
They got their wish.
Dramédie, d'un point de vue purement linguistique, c'est un mot valise entre drama et comédie. Alors c'est vrai qu'on définit généralement la comédie comme les séries comiques et le drama comme tout le reste. La dramédie, c'est une forme d'hybridation entre ces deux standards. Ce serait par exemple, on peut y ranger une série comme Ally McBeal, c'est-à-dire des séries mêlant des éléments réalistes, dramatiques, puisque dramatique est à prendre au sens original du théâtre, pas de la tragédie. Donc des éléments réalistes, des éléments parfois un peu graves, à des éléments comiques sur une durée d'une heure, puisque la durée, ce qu'on appelle le format, est extrêmement important aux États-Unis, bien plus qu'en France. C'est-à-dire que les dramédies sont toujours sur un format d'une heure avec les publicités, les comédies sur un format de 30 minutes avec les publicités, et qu'on passe pas comme on veut d'une durée à l'autre.
On va rappeler, dans les années 90, il y a David Kelley, il fait deux séries, une qui s'appelle The Practice, l'autre qui s'appelle Ally McBeal. Chez Ally McBeal, notamment, Ally travaille avec un certain John Cage. Alors, est-ce que vous êtes plutôt Bobby Donnell ou John Cage ?
Les deux sont très bons. Ils montrent deux côtés complètement différents du droit et de la justice.
Barbara Villez, universitaire franco-américaine.
Mais je pense que la série Ally McBeal est de loin supérieure à l'autre, parce que les questions de droit qui sont posées sont beaucoup plus subtiles. Les gens avec qui j'ai parlé des séries, et souvent mes étudiants aussi, préfèrent The Practice parce que c'est plus sérieux, c'est plus réaliste. Mais on peut faire passer, encore une fois, par le jeu, par la distance qui est créée par un Ally McBeal avec la réalité. On pose des questions sur le droit qui sont de loin plus complexes et beaucoup plus nuancées. Et j'ai montré un épisode d'Ally McBeal à quelqu'un, j'oublie qui maintenant, mais c'était un juriste qui ne connaissait pas la série. Et il m'a dit, mais celui qui l'a écrit devait connaître le droit, non? Donc,
ce qui est vrai.
Ce qui est vrai. Voilà, c'est un avocat de Boston et il a deux séries qui se passent à Boston qui commencent la même année. Un qui est très bleu, très sombre, une vision de la justice qui est un peu glauque par moments. Et l'autre qui est très colorié et très drôle et très... Mais il y a une parodie de la justice et des avocats et personne ne se prend au sérieux. Et c'est très, très important parce que la réflexion est aidée quand on ne se prend pas au sérieux.
Content de retrouver Boston ?
Oui, assez. Je peux te poser une question ? J'aimerais une réponse franche.
Je t'écoute.
Tu trouves que je parle trop vite ?
Ah. Il t'arrive parfois d'être un peu vif.
J'ai une excellente pratique professionnelle, sans parler du respect de l'éthique. Nous sommes payés à l'heure. Nos clients paient le temps que nous passons à parler. Tout avocat a l'obligation de ne pas surfacturer. Donc, si je parle vite, c'est parce que je suis...
très respectueux du client.
David Kelley, c'est peut-être l'auteur qui incarne le plus naturellement les années 90, mais il est loin d'être tout seul dans cette décennie. Alors les années 90, c'est Chris Carter, c'est Joss Whedon, c'est aussi John Wells, c'est Aaron Sorkin. Je crois que vous vouliez revenir sur deux duos indispensables de cette décennie.
Oui, parce que dans les séries des années 90, moi je délimite l'un premier duo, Joshua Brand et John Falsey. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques temps, nous avons parlé d'une série Bienvenue à l'Alaska. Bienvenue à Alaska est une
vous
série...
Vous pouvez me donner le titre en anglais?
Ah non, c'est très compliqué. On peut essayer. Vous allez vous marrer à la maison. Northern Exposure.
Northern Exposure.
Eh bien, les créateurs de cette série, Bienvenue en Alaska, ont créé une autre production, I'll Fly Away, traduit en France par Les Ailes du Destin, qui est une sorte de chronique historique et familiale, assez subtile, qui relate la vie de la petite famille blanche d'un procureur de Géorgie, Forrest Bedford.
Oui, incarné par Sam Waterston, qu'on voit maintenant dans Law and Order, qui est génial dans ce rôle-là.
Voilà, ses trois enfants et la gouvernante afro-américaine Lily Harper. Et en fait, cette série retrace par le biais donc de la chronique familiale et judiciaire, les procureurs, l'accession des Noirs à la citoyenneté dans les États du Sud en 39 épisodes magnifiques. Donc, eux deux, Bienvenue en Alaska, Les Ailes du Destin, qui est une des grandes séries des années 90. Okay, et puis, il y a un autre duo, Edward Zwick et Marshall Herkowitz.
Alors, on sait que vous êtes un peu le David Ikele de France Culture. Vous remarquez l'invisible, vous théorisez comme vous respirez. Alors, je crois que, justement, à propos des productions Zwick-Herkowitz, je crois que vous avez quelque chose, vous avez remarqué quelque chose dans les crédits de fin des séries de ce duo de créateurs.
Oui, Eric, la société de production de Zwick et Herkowitz a pour nom Bedford Falls. Et Bedford Falls, ça vous rappelle rien, Eric ? C'est la ville où est située toute l'histoire du film La vie est belle de Frank Capra. James Stewart, Donna Reed, évoluent à Bedford Falls. Et c'est pas anodin, Zwick et Herkowitz sont les spécialistes de la série familiale des années 90. Et La vie est belle est un film familial. Le motif familial de La vie est belle est clair. Et ce motif familial est représenté dans le film par la maison où habitent James Stewart et Donna Reed. Et cette maison, on la retrouve dans le logo de conclusion de chaque épisode des séries produites par le duo. Une maison enneigée. Ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de la maison, il y a une petite chansonnette qui accompagne ce logo. Et c'est une chanson de la chanson Buffalo Girls qu'interprètent James Stewart et Donna Reed dans le film. Donc il y a un vrai lien entre ce film et les productions. On pourrait passer des heures et des heures à détailler tout ce qui fait référence, dans Once and Again en particulier, au film de Frank Capra. Mais je vais m'arrêter là parce que sinon on est encore jusqu'à minuit et des poussières. By the light of the moon.
On continue notre petit tour des grands auteurs de ces années 90. Alors, on en a cité quelques-uns précédemment. On va s'arrêter sur deux grands auteurs. Le premier, c'est Tom Fontana, qui a commencé dans les années 80 sur Saint Elsewhere, donc prototype de la série de Quality Television. Et en fait, les années 90, elles sont importantes pour lui comme pour le téléspectateur, parce que Tom Fontana, les années 90, elles vont lui permettre en fait de poursuivre sa radiographie des institutions américaines. Donc après l'hôpital dans les années 80, où il montre que c'est pas forcément le meilleur lieu pour survivre, donc ce qui est quand même assez fort. Il va s'atteler à montrer le quotidien de la criminelle de Baltimore, où tout n'est jamais parfait. Et puis après, le fonctionnement d'un établissement carcéral expérimental. Et donc ça, cette série-là, c'est bien sûr Oz, qui crée, on va dire, le choc à la fin des années 90. L'autre grand producteur de cette période, c'est Dick Wolf, donc pour Law and Order. Alors, ce qui est intéressant chez lui, c'est que c'est moins un auteur concepteur, je veux dire quelqu'un qui écrit, qu'un producteur, c'est-à-dire quelqu'un qui sait rassembler les talents, qui sait créer une marque, qui va la vendre. Et donc c'est aussi pour ça que c'est par exemple un des plus gros businessman du Hollywood de la télé, parce que c'est vraiment quelqu'un qui sent les choses et puis qui est toujours dans les très bons coups. Il a été élevé dans les années 80 à l'école de Michael Mann sur Miami Vice.
Par exemple, Tom Fontana, qui part d'homicide.
Séverine Barthes.
Donc la criminelle de Baltimore, qui fait ensuite Oz, une prison haute sécurité, expérimentale, qui fait ensuite The Jury, où on est dans le cadre, on démontre comment fonctionne un jury qui va condamner ou ne pas condamner un accusé. Alors, on est toujours dans une forme de gravité, on est toujours dans une forme aussi de réalisme, mais on a la tentative d'ouvrir quelque chose. Je veux dire, on n'est pas comme Dick Wolf qui répète la même, pas tout à fait la même chose, mais qui est quand même dans une répétition de Law and Order jusqu'à Trial by Jury. On est là dans une progression, alors qui est plus une progression chronologique, si je puis dire, qui accompagne une progression de la réflexion, c'est croiser sur une même question différents regards, différents faisceaux. Mais ça me semble aussi intéressant et assez révélateur aussi, justement, de cette façon dont certains ont pu saisir de la télévision pour, en s'étalant dans le temps, si je puis dire, c'est-à-dire en faisant plusieurs séries qui durent plusieurs saisons, en s'étalant ainsi, se créer une tribune et en même temps, aussi, à mon avis, une propre réflexion pour eux-mêmes. In the past two years, one TV show has actually been credited with saving more than 50 lives. So if you think you can live without watching television for one night, make sure it isn't Tuesday. The show is Rescue 911. The look is CBS. Alors, les années 90, maturité des fictions, mais je crois qu'il est important aussi de rappeler que c'est peut-être aussi la maturité du business hollywoodien en son entier, en tout cas pour ce qui est de la télévision. Alors, les années 90, Internet n'est pas encore venu perturber le jeu entre studios, chaînes, auteurs, publics. Hein, c'est-à-dire que les grands groupes font encore, on va dire, des marges confortables. Alors, quand vous regardez cette période avec un petit peu de recul, vous apercevez que c'est la période des grandes concentrations. C'est-à-dire que tous les grands groupes, tous les grands studios, toutes les grandes chaînes vont changer de main. Il va y avoir des fusions. Alors, je pense à ABC et Disney. Je pense à CBS et Paramount qui vont être absorbés par Viacom. Depuis, CBS est redevenu une entité indépendante. Je pense à NBC qui est déjà en train de lorgner du côté d'Universal.
C'est Dallas, quoi.
C'est un peu le Dallas, mais c'est à Hollywood. On voit, en fait, ça peut paraître simplement des phénomènes boursiers ou des phénomènes économiques. Mais en fait, bon, ces grands groupes, ça va mener à quoi? Ça va mener, en fait, aux commandes, en fait, des businessmen, plus des créateurs. Et peu à peu, finalement, la préoccupation de ces gens-là, ça va être profit maximal et on va prendre de moins en moins de risques. Donc c'est aussi une période où finalement les grandes séries, c'est des séries, il y a très peu de surprises. On pourrait regarder toutes les séries de cette décennie, on trouverait des surprises. Mais on est dans une économie beaucoup plus adulte qui sait ce qu'elle fait et qui sous-pèse énormément avant de lancer quelque chose. Alors on perd un petit peu aussi d'innocence, hein. Ça va mener aussi à des procès majeurs. Notre Steven Bochco ou David E. Kelley, par exemple, pendant ces années 90, Chris Carter aussi, vont mener d'énormes procès contre les studios ou contre les chaînes, parce qu'on va s'apercevoir qu'au sein de ces grands groupes, certaines chaînes, certains studios appartenant à la même entité vont s'arranger pour se vendre des séries, pas forcément au prix que le marché aurait fixé. Et donc, bien sûr, c'est des pertes. Quand Chris Carter attaque la Fox au tribunal, c'est pour lui demander 150 millions de dollars. Vous voyez, on n'est pas... C'est pas 3 sous. Et c'est bien représentatif de cette période, c'est-à-dire une période plus cynique, plus agressive au niveau de la programmation. Et puis ça préfigure un petit peu nos années 2000, où là, bon, on en parlera bien sûr dans une prochaine émission, avec Internet, avec l'arrivée de tous les médias numériques, on est dans une dématérialisation en fait, des grandes chaînes. On ne sait plus trop qui est puissant, qui ne l'est pas. Et ça, bien sûr, ça va aussi motiver et influencer les créations des auteurs hollywoodiens. On voit que la grève des scénaristes à Hollywood en 2008, finalement, elle prend naissance hein, dans tous ces conflits des années 90, puisque déjà, qu'est-ce que c'est? C'est en fait le jeu de pouvoir entre les créateurs, c'est-à-dire les auteurs, ceux qui ont les idées, et puis de l'autre côté, les studios et puis les chaînes, ceux qui vont produire, financer ces projets, et puis les proposer au grand public et essayer d'en retirer un maximum de bénéfices. Et à cette époque-là, on aurait déjà dû prendre des décisions sur la rétribution par Internet, choses comme ça. On a voulu se voiler la face, et puis le problème est apparu, a explosé finalement en 2008, avec donc cette grande grève qu'on a connue récemment.
Vous pensez que j'ai essayé de tuer mes acteurs?
Selon eux, vous espérez obtenir un poste de réalisatrice permanente pour ce feuilleton.
Mais tout le monde le sait, ça.
Comme tous les trois ne vous portent pas dans leur cœur, ils iraient se plaindre aux producteurs.
Ils sont impatients de vous voir partir.
En les éliminant, ils ne seraient plus un obstacle pour vous. Vous n'avez pas d'assistant.
Je crois qu'il est clair que les feux de l'amour ne m'intéressent plus. David Kelley m'a demandé de diriger un épisode de sa nouvelle série.
Oui, c'est on ne peut plus clair. Et elle n'y est pour rien.
Alors nous nous sommes arrêtés tout au long de cet épisode sur plusieurs productions des années 90. Cette demi-heure ne suffira pas hein, pour en parler. C'est pourquoi on a décidé dans les prochains épisodes de nous arrêter genre par genre sur les grandes séries de cette décennie, donc les séries médicales, les séries judiciaires et puis aussi les séries fantastiques et de science-fiction.
Je la trouve vraiment nulle, la grosse.
Chut,
Et elle est trop vieille pour le rôle.
Chut, ça va être à papa.
We represent the lollipop guild, the lollipop guild, the lollipop guild, and in the name of the lollipop guild.
C'était Série Télé, l'Amérique en 24 épisodes. Prise de son Olivier Berotte, mixage Pierre Monteil, réalisation Lionel Quentin. Une émission de Benoît Lagan et Éric Véra. Retrouvez plus d'informations sur franceculture.com à la page de notre émission et dans la revue Générique, le magazine de la culture série. Demain, les séries médicales. Bonne nuit. Il est 23h sur France Culture. Dans un instant, retrouvez Pierre Chevalier pour Sur les docks. Mais tout de suite, Axel Brucker vous présente ses bandes-annonces.